Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, ça y est, c'est parti. Il est 6h58, bienvenue dans Apolline Matin. Nous sommes le jeudi 11 juin et...
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et ça y est, coup d'envoi. 5 semaines de la plus prestigieuse des compétitions RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Qui, pour succéder à l'Argentine, la France peut-elle aller jusqu'au bout? Dans 10 minutes, on fera le point avec l'ancien international français, consultant RMC, Eric Dimeco. Il sera avec nous tout au long de la Coupe du Monde. C'est lui qui nous servira de guide, en quelque sorte. Venez donc échanger avec lui dès maintenant. Vous nous appelez au 3216 ou le WhatsApp 0612 424 424. Est-ce qu'une prime de match, ça vous intéresse, vous? Bah oui, parce que, sachez-le, RMC vous fait gagner 30 000 euros. Et attention, on rajoute 500 euros à chaque but marqué dans la compétition et on joue ensemble d'ici 9h. On va revenir aussi ce matin sur les suites de l'affaire Liana. Avez-vous encore confiance en la justice? Je pose la question au sondeur spécialiste de l'opinion française, Jérôme Fourquet, qui sera donc à 7h40, là pour nous dire aussi s'il y a ce sentiment au fond que la justice ne répond plus aux besoins en France. Et puis dans le face-à-face, j'interrogerai l'une des plus hautes magistrates de France, la procureure générale de la Cour d'appel de Paris, Marie-Suzanne Leclos. Rendez-vous donc à 8h30. Il est 6h59, dans un instant le journal de 7h. Mais tout de suite la météo, Anthony Casmaret, qui c'est le retour du soleil.
Ah oui, notamment sur la moitié sud du pays, ça va durer toute la journée. Au nord, un beau début de journée, belles éclaircies, mais déjà le retour de nuages cet après-midi, nuages parfois compacts hein, près de la Manche, en Ile-de-France, sur les Hauts-de-France, avec quelques averses entre Haute-Normandie et Nord-Pas-de-Calais, quelques gouttes aussi sur la plaine d'Alsace et en Lorraine, mais ailleurs, donc sur les deux tiers sud du pays, au sud d'une ligne Nantes-Besançon, beaucoup de soleil et attention, toujours beaucoup de vent près de la Méditerranée, un vent qui renforce le risque de feux de forêt. De la fraîcheur encore ce matin, mais ça va remonter un peu cet après-midi avec 16 à 22 degrés sur la moitié nord, 20 degrés à Paris, 20 à 24 au sud et encore 24 à 29, très agréable près de la Méditerranée.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS à Knaps.
Très bon réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer, bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Mise en examen notamment pour viol et tentative de viol dans 4 affaires. Patrick Bruel échappe à la casse prison, placé sous strict contrôle judiciaire. Les détails à suivre dès le début de ce journal. La tension qui s'accentue au Moyen-Orient, nouvelle série de frappes cette nuit entre les États-Unis et l'Iran qui menace de fermer le détroit d'Ormuz. Et c'est le grand jour enfin pour des millions de supporters à travers la planète. Prêt à vibrer pour la Coupe du Monde. Vous ne manquerez rien de ce mondial XXL sur RMC, radio officielle de cette compétition.
Patrick Bruel est libre ce matin.
C'est l'image de la nuit. Le chanteur de 67 ans regagnant son domicile de Neuilly-sur-Seine près de Paris à bord d'une moto, mise en examen pour viol, tentative de viol, agression et harcèlement sexuel dans 4 affaires entre 2008 et 2019. Pierre Bazin nous rejoint, service police-justice RMC. Patrick Bruel échappe donc à la détention provisoire, décision des juges à l'issue de son audition au tribunal de Nanterre. RMC y a assisté, Pierre.
Ah oui, dans la salle, face au juge des libertés et de la détention, Patrick Bruel apparaît plus le manche longue, jean noir, bottines, le visage fermé, les yeux cernés. Après 48 heures de garde à vue, il décline son identité avant que le huis clos soit prononcé par les magistrats. Les journalistes doivent sortir. Ce n'est qu'une heure et demie plus tard que la porte de la salle rouvre. Les avocats du chanteur s'avancent pour annoncer qu'il est mis en examen pour 4 faits contre les 9 initialement retenus par le parquet de Nanterre. Et surtout, Patrick Bruel ressort libre, sous contrôle judiciaire. Pas de commentaires supplémentaires des avocats, mais dans l'entourage du chanteur que RMC a pu joindre dès hier, on se dit soulagé de savoir que Patrick Bruel ressort libre alors qu'il a vraiment eu peur de la détention provisoire suite aux réquisitions du parquet.
Et on va se pencher, Pierre, sur les conditions du contrôle judiciaire de Patrick Bruel.
Oui, d'abord, il y a cette caution de 500 000 euros que Patrick Bruel doit verser à la justice. Il doit également remettre son passeport. Interdiction pour lui de quitter le territoire français. Il ne peut pas non plus approcher les plaignantes ou leurs familles. Mais surtout, le chanteur doit suivre des soins psychologiques. Il doit aussi, il a également une interdiction de fréquenter les salons de massage. Puisqu'on le rappelle, parmi les plaignantes, il y a plusieurs masseuses qui ont accusé le chanteur d'agression sexuelle dans le cadre cadre de leur exercice professionnel. Toutefois, contrairement à Jean-Luc Lahaye, par exemple, accusé de viol sur mineur en 2021, Patrick Bruel, lui, n'est pas interdit de monter sur scène dans le cadre de ce contrôle judiciaire.
Les précisions ce matin de Pierre Bazin, service police-justice RMC, s'il continue de contester les faits qui lui sont reprochés pour de nombreux fans du chanteur, leur est venu de tourner une page. Notre correspondant en Bretagne, Martin Lange, a pu le constater pour RMC.
Il y a quelques semaines encore, Bérénice, 38 ans, fredonnait les plus grands tubes de Patrick Bruel.
Je connais toutes ses chansons, j'ai été plusieurs fois le voir en concert, et là, j'arrive plus, quoi. C'est un mythe qui s'effondre. Ouais.
Dominique, elle l'écoutait depuis plus de 30 ans.
Plus les témoignages se sont accumulés, et tous les jours on en découvre, et là je suis écœurée, quoi.
Vous l'écouteriez encore ou...
Honnêtement, ce serait compliqué.
Et puis il y a les vraies admiratrices comme Morgane, 40 ans.
Je suis fan depuis que j'ai 15 ans. J'ai vu tous les concerts, ses pièces de théâtre, j'ai tout acheté. Je l'ai tellement aimé pendant tellement longtemps que ça me fait de la peine, en fait.
Sur les réseaux sociaux, certaines continuaient à défendre corps et âme le chanteur, mais elle a entériné la rupture.
C'est sûr que je pourrais plus jamais aller applaudir un homme comme ça. Moi, j'ai mes billets pour aller le voir en concert au mois de novembre à Brest. J'irai pas. C'est pas facile parce que c'est ce que j'adorais faire. Mais c'est fini.
Fini aussi les albums, les livres et autres calendriers rangés dans un carton à la cave. Ça fait partie de ma vie, mais je ne veux plus les voir, conclut-elle.
Il est 7h04, vous écoutez RMC, la réouverture d'une enquête contre le père de Jérôme Barella, principal suspect de l'affaire Liana, visé par deux plaintes déposées en 2013 et 2018 pour viol sur mineur. L'une d'elles concerne l'une de ses petites filles par alliance, classée sans suite. Pour la première, il avait bénéficié d'un non-lieu. Pour la seconde, et dans le sillage de cette affaire Liana, dont les obsèques auront lieu demain, on apprend que Gérald Darmanin, ministre de la Justice sous pression, a décidé d'abandonner le plaidé coupable, mesure phare de son projet de loi sur la justice criminelle. Nouveau regain de tension, je vous le disais, cette nuit au Moyen-Orient, avec ses frappes américaines sur des installations militaires en Iran, qui a répliqué. Téhéran dit avoir ciblé des bases américaines au Koweït et à Bahreïn et annonce, Romain Houg, la fermeture du détroit d'Ormuz.
Oui, tous les navires qui s'y aventureront seront pris pour cible, préviennent les gardiens de la Révolution qui disent avoir lancé des drones sur plusieurs bases militaires américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn. Représailles après les frappes américaines menées cette nuit. Une cinquantaine de missiles Tomahawk tirés sur la côte sud de l'Iran dans la zone du détroit d'Ormuz, mais également dans d'autres localités à travers tout le pays, dit l'armée américaine. Elle explique avoir ciblé des installations de défense aérienne, des radars et des postes de contrôle. Donald Trump avait bien prévenu hier qu'il allait attaquer durement l'Iran, et pour cause, le président américain s'impatiente. On était vraiment sur le point de conclure un accord, assure-t-il, mais il n'arrête pas de nous mener en bateau. Il se moque de nous, a-t-il déclaré dans le bureau ovale, mais menaçant de négocier, je cite, à coups de bombe. Les États-Unis qui démentent au passage toute fermeture du détroit d'Ormuz.
Deuxième soirée de violence en Irlande du Nord à Belfast, où les forces de l'ordre ont usé des canons à eau. Manifestation anti-immigration soutenue par l'extrême droite britannique après une attaque au couteau lundi pour laquelle un réfugié soudanais a été inculpé.
RMC 7h06, c'est le grand jour.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et vous ne manquerez rien, l'événement sur RMC, antenne 100% Coupe du Monde, de 18h à 5h du matin, l'ensemble des matchs commentés en direct. Le premier ce soir, 21h, Mexique, Afrique du Sud, depuis le mythique stade Azteca de Mexico, qui va vibrer pour son troisième mondial, mais aussi pour Shakira. La chanteuse colombienne interprétera Dai Dai, l'hymne de ce mondial. Il y aura deux autres cérémonies d'ouverture demain au Canada. La dernière, ce sera samedi aux États-Unis, à Los Angeles, en direct sur place ce matin. Notre envoyé spécial, Nicolas Pelletier, un mondial dans trois pays. C'est une première pour cette Coupe du Monde complètement démesurée, Nicolas.
Oui, la plus longue Coupe du Monde de l'histoire. 39 jours jusqu'au 19 juillet, date de la finale, avec trois pays organisateurs, les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui reçoit ce soir le premier des 104 matchs de ce mondial. Un événement XXL sur quatre fuseaux horaires avec 16 stades et près de 1250 joueurs, du jamais vu dans l'histoire de la compétition. Mais il faut bien recevoir les 48 nations qualifiées contre 32 au Qatar en 2022. Ajoutez à cela un bilan carbone dans le rouge. 4000 kilomètres séparent certaines enceintes de la compétition, de la démesure au niveau du porte-monnaie jusqu'à 2 millions d'euros pour obtenir un ticket afin d'assister à la finale. La FIFA veut du show à l'américaine sur toutes les rencontres, comme pour le Super Bowl. Un grand spectacle est prévu à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde le 19 juillet à New York.
Nicolas Pelletier à Los Angeles, vous êtes l'un des 40 membres de l'équipe RMC envoyé sur place pour vivre l'événement et pour voir nos bleus. Pourquoi pourquoi pas soulever la coupe du monde le 19 juillet. 15% des Français y croient, selon un sondage Elab pour RMC. Des Bleus arrivés hier à Boston dans un hôtel 5 étoiles, le Four Seasons, camp de base de l'équipe de France, accueilli par plusieurs dizaines de supporters chauffés à blanc, Florent Germain.
Oui, dans une très chaude ambiance, 300 supporters attendaient la délégation tricolore devant son hôtel. Des jeunes Français ou Américains avec des photos de Michael Olise et Ryan Cherki à faire signer. Beaucoup de fans avec des maillots d'Ousmane Dembélé ou de Kylian Mbappé, évidemment. Le capitaine des Bleus a reçu un accueil de rockstar à Boston. Les Français qui résident sur la côte est des États-Unis n'auraient manqué ce moment pour rien au monde.
Ce Super Bob, je l'ai acheté ce matin et maintenant je le garde pendant toute la Coupe du Monde. C'est génial.
J'ai vu Kylian Mbappé, j'ai une photo avec Zaire Emery, trop cool. J'ai eu Manu Koné, j'ai eu Upamecano, j'ai vu Cherki, il est passé. J'ai vu Dembélé, il est passé, j'ai vu Barcola.
German en a crié de bonheur, il a pu approcher ses deux joueurs préférés.
Kylian Mbappé.
J'ai le maillot de Kylian Mbappé et là j'ai pu prendre une photo avec Ousmane Dembélé, je suis si heureux, c'est la chance d'une vie. Je suis supporter du Brésil, mais la France est ma seconde équipe favorite, je vais soutenir les deux pays.
Boston a donc adopté l'équipe de France, les Bleus ont joué le jeu et déjà fait des heureux.
Un peu plus loin que Boston, coup dur pour les Spurs de Victor Wembanyama, qui après avoir dominé les Knicks de New York sur leur parquet se sont écroulés pour finalement s'incliner d'un tout petit point, 106 à 107, ça fait 3-1 pour les New Yorkais, à un match de la victoire finale.
C'était le journal de Thibaut Texer et justement vous l'entendiez, évidemment ça commence ce soir, match d'ouverture ce soir à 21h, coup d'envoi donc de la Coupe du Monde Mexique, Afrique du Sud, à vivre évidemment sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde, compétition qu'on va vivre avec vous, Eric Dimeco. Bonjour Eric.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Ancien international français, consultant RMC, vous allez être notre fil rouge tout au long de ces 5 semaines. On commence ce matin. La France peut remporter une 3e étoile. Vous l'assumez, vous l'affirmez, c'est votre parti pris. C'est dans un instant. Et puis je vous attends évidemment, vous tous qui nous écoutez, appelez-nous au 32-16. Dites-nous ce que vous attendez, ce que vous espérez. Est-ce que vous avez prévu de vous lever à n'importe quelle heure de la nuit pour vibrer pour cette Coupe du Monde? Je vous attends. 7h10.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Plus de 5 semaines de compétition, 48 équipes en lice, 104 matchs et tout ça, ça va être à vivre évidemment sur RMC. La Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ça commence ce soir.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
RMC Radio officielle de l'événement, un rendez-vous qu'on va suivre notamment grâce à vous, Eric Dimeco. Bonjour Eric.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Vous serez avec nous très régulièrement le matin pour nous faire vivre la compétition. Match d'ouverture donc ce soir, Mexique, Afrique du Sud à 21h. Eric, est-ce que vous avez hâte que ça commence ?
Ah oui, c'est toujours un moment particulier quand on est fan de foot. La Coupe du Monde, c'est la compétition ultime, donc on attend ça tous les 4 ans et quand ça débute, on est heureux.
On est donc heureux. Par principe, j'ai envie de vous dire, au moment où ça n'a pas encore commencé, est-ce qu'on sera pas encore plus heureux si on a gagné? Qui pour succéder à l'Argentine, vainqueur donc contre la France en finale en 2022? Est-ce que vous vous dites que les Bleus peuvent gagner cette année et avoir la 3e étoile?
Ah oui, je crois que tout le monde est d'accord dans le monde du football et pas qu'en France pour dire que l'équipe de France fait partie des grands favoris. Si on s'amuse à faire une petite hiérarchie des équipes qui vont aller chercher ce titre-là, on met souvent l'Espagne, la France dans les deux plus grands favoris. Alors après il y a le Portugal, l'Angleterre, l'Argentine tenant du titre qui sont des prétendants, mais on a quand même une génération dorée.
On a une génération dorée, on continue, j'allais dire, à avoir une génération dorée. Tiens, on va tout de suite accueillir Stéphane qui nous appelle du Var. Bonjour Stéphane.
Bonjour Apolline, bonjour Eric.
Alors, salut, comment Stéphane. Ça va Stéphane?
Très bien, hein, très bien, merci. Après, je serai plus prêt pour mardi soir. Là, pour l'instant, c'est juste l'apéro.
C'est l'apéro, exactement. À partir d'aujourd'hui, c'est l'apéro. La vraie entrée en matière, c'est mardi soir, le premier match des Bleus. Vous y croyez Stéphane?
Alors, j'y crois, oui, parce que comme vient de dire Eric, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, la France fait partie des grands favoris pour la victoire finale. Mmh. Mais attention, c'est le terrain qui va décider. Mmh.
Ah ben oui, c'est un peu le concept du sport, tu sais. Mais c'est le fait d'être favori ne veut pas dire que c'est tout cuit. Il va falloir faire le job. Ce qu'il y a de plus en plus difficile dans le football, c'est que les équipes sont préparées. Même les petites nations entre guillemets sont au point tactiquement, techniquement, physiquement pour ce genre de compétition. Et ça va être compliqué, bien sûr.
Justement, Eric, mardi France Sénégal, c'est quoi? C'est juste de la mise en bouche, on y va tranquille?
Ah non, non, ah, non, justement. Et non, justement, puisque nous faisons partie des favoris, mais justement, quand on est favori, on est épié, on est observé, et tout le monde a envie de nous battre, et surtout, les Sénégalais, grosse génération, alors, je ne sais pas si on peut dire champion d'Afrique en titre, parce que il y a toujours ce débat. Eux, en tout cas...
Disons qu'ils ont gagné sur le terrain et perdu officiellement.
Voilà, donc ça, à la limite, on n'est pas là pour faire ce débat-là, et je crois que le débat va avoir lieu pendant un certain temps, mais ça veut dire que c'est une équipe très redoutable, avec beaucoup de joueurs que nous connaissons très bien, qui sont des joueurs de haut niveau, et qui généralement font de gros matchs contre nous, donc d'entrée, il va falloir être au top. On pensait qu'avec cette nouvelle formule, avec beaucoup plus d'équipes que d'habitude, le premier tour serait une formalité. On tombe dans un groupe avec la Norvège et le Sénégal, où ça va être chaud d'entrée.
Voilà. Oui, on n'a pas le droit à un tour de chauffe, quoi. Il faut être tout de suite très bon. Stéphane, vous allez vous réveiller à n'importe quelle heure. Alors, il se trouve que mardi, c'est à 21h, donc c'est tout à fait humain. Oui. Mais il va y avoir des matchs au milieu de la nuit.
Alors, je sais que, c'est sur France-Irak, sera à 23h. Donc, ça, là, par contre, non, je le verrai le résumé le lendemain, parce que 23h, ça veut dire que ça va finir aux alentours d'une heure du matin en France. Non.
Ça, Eric Dimeco, quand même, dans la manière dont la France va soutenir son équipe et dont on va vivre ce mondial, le décalage horaire, évidemment, c'est quand même un peu plus compliqué.
Oui, alors après, les deux gros matchs, si j'ai bien ça en tête, seront à 21h, le France-Sénégal et le Norvège-France, me semble-t-il. Donc c'est des heures normales pour un fan de foot, hein. Les matchs sont à 21h en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Il y aura quelques matchs la nuit et on se lèvera volontiers parce qu'il y aura quelques affiches. Et après, si j'ai bien ça en tête, ça va commencer à jouer un petit peu plus tôt, en tout cas vers 19-21h. Il y aura quelques matchs un peu plus tard, mais on traîne. Je me suis pas couché de la nuit.
Il y a un quart de finale qui pourrait être au milieu de la nuit, je crois. Hein.
Mais bon, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai regardé le quatrième match de NBA, donc je m'en donnerai pour les matchs au foot. Ouais. Hein. Oui, à plus, j'ai tellement les nerfs que j'ai pas réussi à me rendormir derrière. Donc,
Eric, vous auriez dû m'appeler parce que moi, j'ai pratiquement pas dormi de la nuit, mais pour des raisons plutôt politiques, puisque j'ai bossé jusqu'à minuit avec tous les candidats. Oui. Entre le foot et la politique, on s'en sort pas, Eric.
Ah oui, en plus, il y a la NBA au milieu, c'est terrible. Je pense qu'on va dormir le jour.
Merci beaucoup, Eric, qui sera donc avec nous en direct tout au long de cette Coupe du Monde pour la vivre avec nous. Et merci à Stéphane de nous avoir appelé au 32-16. Il est 7h18. N'oubliez pas, RMC, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde. Dans 40 minutes, à 8h, lancement de la radio digitale 100% Coupe du Monde. Ce sera sur le site et l'application RMC pour ne rien rater de l'événement. Coup d'envoi donc de cette radio digitale à 8h. Il est 7h19. Arthur Chevalier. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Comme chaque matin, on va remonter l'histoire avec vous. Début ce matin des premières épreuves du bac, le bac français ce matin. Vous vous intéressez à la triche.
Eh oui, envoyer sa mère à sa place pour passer une épreuve ou se faire tatouer le cours de chimie sur l'avant-bras. Depuis la création du bac, toutes les techniques de triche ont été expérimentées.
Mais j'adore l'idée que vous allez nous raconter la triche. Allez, il est 7h19 sur RMC, on se retrouve dans 50 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On remonte le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Aujourd'hui, c'est donc le début du baccalauréat, les épreuves du bac général. Ça commence par l'épreuve anticipée de français pour les élèves de première. Et qui dit bac, Arthur, dit parfois triche.
Eh oui, la triche au bac, le sujet revient tous les ans. En 2025, on a quand même recensé 1208 cas de triche sur 1,2 million de candidats. Une hausse de 30% par rapport à 2024. Donc évidemment, pour lutter contre la fraude, le ministère de l'Éducation prend des mesures et il a notamment installé des détecteurs d'objets connectés dans certains centres d'examen.
Bon, j'imagine que les élèves n'ont pas attendu les téléphones pour tricher. Hein.
Et non, la triche, c'est évidemment vieux comme le bac. Le bac, pour rappel, ça date de 1810 et les fraudes sont arrivées très vite. La plus vieille façon de tricher, eh bien, c'était de se faire remplacer pendant les épreuves. Et à l'époque, c'était pas compliqué puisque Avant 1926, il n'y avait pas de photo sur le livret scolaire, donc c'était quasiment anonyme. Donc quand vous étiez candidat, vous n'aviez qu'à jurer sur l'honneur que c'était bien vous, et à signer un petit papier en comparant les signatures. Évidemment, c'était très facile de tricher. Vous me voyez venir, des petits malins se proposaient pour remplacer les candidats contre un peu d'argent. Et à l'époque, c'était déjà un petit business.
Un très bon business, c'est de là que vient l'expression bachotage.
Et oui, puisqu'au milieu du 19e siècle, il y avait un oral au bac. Alors voilà en quoi ça consistait. Le candidat tirait une question au hasard, une question parmi 500 autres questions. Donc évidemment, le but, c'était de connaître par cœur les 500 réponses possibles. Comme ça, vous étiez blindé. Et il y avait déjà des sortes de cours particuliers à l'époque. On vous apprenait justement à apprendre par cœur. C'est ce qu'on appelait le bachotage. L'expression vient de là. Si vraiment vous n'y arriviez pas, ces entreprises, vous trouvez aussi un remplaçant pour passer l'oral à votre place.
Alors aujourd'hui, des candidats essayent encore de se faire remplacer pendant les épreuves. Hein.
Oui, alors attention parce que ça peut quand même tourner au ridicule. En 2013, une candidate de Paris a carrément envoyé sa mère passer son épreuve d'anglais. Sauf que sa mère avait 52 ans.
Ah,
évidemment,
oui.
C'était compliqué. Alors quand même, la mère avait bien fait les choses puisqu'elle s'était maquillée comme une ado, habillée comme une ado. Elle était un peu déguisée. Mais la maman a fini par être démasquée par une surveillante qui avait déjà contrôlé la fille à l'épreuve de philo, donc elle s'est rendue compte de la situation.
C'est excellent. Bon, finalement, les techniques pour tricher n'évoluent pas tant que ça. Hein.
Non, et l'artisanat, ça va parfois un peu loin dans la triche. Hein. En 2004, à Marseille, un candidat a été jusqu'à se faire tatouer une partie de son cours de physique-chimie sur l'avant-bras pour tricher pendant l'épreuve. Là encore, ça n'est pas passé. Hein. Il s'est fait choper 5 ans d'interdiction d'examen. Ça fait réfléchir. Ceci dit, les statistiques indiquent quand même, Apolline, que les smartphones ont changé la donne. Puisque en 2025, 55% des fraudes ont été réalisées avec l'aide d'un appareil connecté, donc téléphone, tablette, montre.
Et j'ai une petite pensée ce matin pour mon fils qui est en route donc pour l'épreuve de français. Je le salue et je l'embrasse bien fort. Merci Arthur. Merci. Une chronique à retrouver en podcast sur le site.
Vous
et l'application.
Vous êtes un peu stressé.
Ouais, un peu, j'avoue. Allez, il est 7h23, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face à face.
Et bonjour Arnaud.
Bien dormi.
Bonjour. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et effectivement, cet encouragement quand même à mon fils qui passe au bac ce matin.
Il est
formidable et j'ai toute confiance. Alors Arnaud, une fois qu'on a dit ça, c'est votre bac
c'est
à vous, c'est
à
votre
moi.
Épreuve à vous. Et alors attention, je ne sais pas si vous alliez y arriver parce qu'il faut me pirater ce face à face. Et l'invité, c'est une procureure générale près la cour d'appel de Paris, Marie-Suzanne Lequiot.
Marie-Suzanne Lequiot, vous avez entendu, c'est breton. C'est breton, Lequiot. Alors, vous connaissez la justice en Bretagne. Toute la tribu se réunit autour de grands menhirs. Après, vous êtes condamné et Hakim, le fils du forgeron, vient vous chercher. En prison. Alors, on évoquera entre autres les nouvelles plaintes déposées contre Patrick Bruel, notamment par Miss Alsace 2007. En fait, Patrick Bruel était président du jury du concours Miss France à l'époque.
Et bonjour, bonsoir, bienvenue à cette élection de Miss France et on passe au traditionnel défilé en maillot de bain. Enlevez vos costumes. Non Patrick, c'est que les Miss qui se déshabillent. Vous pouvez remettre votre slip, Patrick.
Ouais, mais je pourrais l'enlever tout à l'heure dans la piscine avec les filles.
Non mais il n'y a pas de piscine. Les maillots de bain, c'est juste pour faire monter l'audimat, Patrick.
Oh, il est nul à chier, votre concours.
Miss Alsace raconte qu'il avait pris son numéro. Et donc, il a sûrement pris le numéro de toutes les autres Miss régionales. Mais heureusement pour Miss Limousin, Miss Franche-Comté et Miss Poitou, comme il n'y a pas de réseau là-bas, ils n'ont pas eu d'emmerde. Alors, on connaît un peu Marie-Suzanne Lequiot parce qu'elle a été procureure de la République à Auxerre, où elle a été chargée de l'affaire Émile Louis. Et en ce jour de début de la Coupe du Monde, c'est une bonne personne pour nous parler des drames qui peuvent arriver dans un bus. Il fallait que ce soit elle. Elle a un parcours très impressionnant. Elle a commencé à Limoges, puis elle a fait Bernay, Pontoise, Auxerre, Évreux, Évry, Douai, Aix-en-Provence, avant de finir à Paris, sur les champs, en maillot jaune. Et elle a aussi travaillé... Non, mais c'est tout le Tour de France. Elle a aussi travaillé sur l'affaire Georges Tron. Vous vous souvenez de l'affaire Georges Tron?
Ah oui, le pied.
Sombre affaire de fétichiste des pieds. Georges Tron, en fait, c'est un ancien secrétaire d'État qui proposait à ses collaboratrices des cours de réflexologie plantaire. Je sais pas si vous savez bien ce que c'est, la réflexologie plantaire.
Si
en
on
fait,
vous... enfin,
c'est une technique massage des pieds. Vous stimulez des nerfs de la voûte plantaire connectée à d'autres organes. En fait, ça joue sur la santé. Par exemple, si Mathieu Béliard me chatouille le gros orteil avec la langue,
n'est-ce pas,
ça me donne instantanément une dépression. Vous voyez, c'est connecté. C'est la santé. Quand on pense que Georges Tron, il était directeur de cabinet d'Edouard Balladur, j'espère qu'il lui a pas léché les pieds à lui aussi. Georges, je vous demande de vous arrêter. On embrasse des vieux souvenirs.
Oh, Marie-Suzanne
Lequiot à 8h30.
Merci Arnaud, il est 7h26.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Écoutez, oui. C'est l'alerte, elle est un peu étrange cette alerte. Hein,
il y a de l'argent.
Hein. Mais il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent qui passe. Il y a un ordinateur qui compte. Et il y en a des chiffres. C'est le moment de jouer. RMC vous fait gagner votre prime de match. En jeu, la somme de 30 000 euros à laquelle on ajoutera, attention, 500 euros par but marqué à chaque match de la Coupe du Monde. Retenez bien le montant de la prime. À tout moment, on peut vous appeler et on vous demandera à combien on en est de cette fameuse prime. Quel est le montant? Si vous donnez le montant de la prime, alors vous la remportez. Pour vous, vous envoyez dès maintenant but au 7-32-16. But au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Il est 7h27. On se retrouve dans un instant. La météo et le journal. Restez bien avec nous sur RMC. 7h29 dans un instant, le journal, mais d'abord la météo et Anthony, c'est le retour du soleil.
Mais oui, sous la forme de très belles éclaircies ce matin et sur tout le pays en plus. Bon d'accord, il reste encore quelques averses en Aquitaine et sur le quart nord-est, mais attention, cet après-midi, ne vous réjouissez pas trop vite. Retour déjà des nuages sur le tiers nord, cette fois entre le nord de la Bretagne, la région parisienne, jusqu'au Grand Est, un ciel de plus en plus couvert avec du vent près des côtes de la Manche et même quelques pluies sur la Haute-Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, 2-3 averses vers le Grand Est, mais sur les deux tiers sud du pays, ce sera du plein soleil avec du vent près de la Méditerranée. Mistral et Tramontane qui renforcent le risque de feux de forêt, donc prudence. Les températures fraîches ce matin, 5 degrés seulement à Reims. Et cet après-midi, ça grimpe par rapport à hier, ça reste un peu frais. 16 à 22 sur la moitié nord et 20 à 29 sur la moitié sud, 29 à Montpellier.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Une sorte de dynastie de pédocriminels présumés. Nouvelle révélation choc sur la famille Barella. Jérôme, principal suspect du meurtre de Liana. Son frère poursuivi pour viol. Et on l'a appris hier, son père sous enquête, accusé d'avoir abusé de sa petite fille. Patrick Bruel a pu rentrer chez lui. Pas de détention provisoire, mais une mise en examen dans 4 affaires de viol, de tentatives de viol et d'agression sexuelle. Et puis le top départ du mondial de foot en Amérique. Ce soir, RMC va vous accompagner chaque nuit avec ces matchs qui vont vous empêcher de dormir.
La justice n'en finit pas d'exhumer les plaintes visant la famille Barella.
Dans le sillage de Jérôme Barella, le suspect numéro 1 du meurtre de Liana. Désormais, le père est visé par une enquête, lui aussi pour crime sexuel sur mineur. Julie Brault, c'est une affaire vieille de 13 ans qui a été rouverte.
Oui, en 2013, une jeune fille mineure proche de l'environnement familial du père de Jérôme Barella a porté plainte pour agression sexuelle. Plainte qui, à l'époque, a finalement été classée sans suite par le parquet de Béziers, faute d'éléments suffisamment caractérisés. Mais suite à la mort de la petite Liana, le procureur a relu la procédure avant de rouvrir l'enquête pour, je cite, procéder à certaines vérifications complémentaires. D'autant qu'en 2013, toujours, le père de Jérôme Barella avait été visé par une seconde plainte. Cette fois-ci, c'est la petite fille de son épouse qui avait dénoncé des viols subis entre ses 10 et ses 13 ans. L'enquête avait duré plusieurs années avant que le mis en cause ne bénéficie d'un non-lieu en 2021.
Et Julie, en plus du père de Jérôme Barella, son frère est aussi poursuivi pour viol.
Oui, l'homme de 44 ans a été mis en examen hier pour viol sur une première ex-compagne âgée de 17 ans. La seconde, elle était majeure au moment des faits dénoncés. De son côté, Yannick Barella a, je cite, nié toute relation sexuelle non consentie. Hier soir, il est ressorti libre du tribunal après avoir été placé sous contrôle judiciaire. Le parquet a fait appel de cette décision, lui qui avait requis son placement en détention provisoire.
Les dysfonctionnements de la justice et un homme dans l'œil du cyclone politique, le garde des Sceaux Gérald Darmanin, qui en plus vient d'essuyer un lourd échec à l'Assemblée nationale. Sa mesure pour accélérer les délais de la justice, le plaidé coupable élargi, a été rejeté par les députés en commission hier. Son projet de loi tout entier est en danger. Alors Sébastien Krebs, il a tout simplement décidé de retirer cette mesure lui-même du texte.
Oui, c'est clairement un renoncement politique. Gérald Darmanin a passé beaucoup de temps ces derniers mois à défendre cette mesure, la plus emblématique de son projet de loi. Étendre le plaidé coupable à certains crimes, comme les braquages, en permettant une condamnation sans procès, avec l'accord de la victime. De quoi désengorger les tribunaux. Mais l'idée avait mis des centaines d'avocats dans la rue. malgré un premier recul en excluant les viols. Et à l'Assemblée, le rejet par le RN et la gauche prédisait un échec cuisant dans l'hémicycle, ce que le garde des Sceaux, déjà fragilisé, ne peut pas se permettre. Il veut mettre tout son poids sur la protection des mineurs, fait valoir son entourage. Il ne peut pas se battre sur tous les fronts, ajoute une parlementaire qui explique qu'il s'agit surtout de sauver le reste du projet de loi et la création d'une soixantaine de cours criminelles attendues par les magistrats.
Sébastien Krebs, chef du service politique de RMC. Patrick Bruel échappe pour l'instant à la prison. Pas de détention provisoire hier, mais une mise en examen dans 4 affaires de viol et d'agression sexuelle. Le chanteur peut poursuivre ses concerts. Alors qu'en pensent les Français? Certains à Paris trouvent ça encore trop léger, Luc Allobert.
Lorsque Juliette apprend la mise en examen de Patrick Bruel, un large sourire se dessine sur son visage.
Pour moi, c'est un grand soulagement que cet homme soit enfin mis en examen. Je pense que ça arrivait très tard.
Quant aux suites judiciaires à l'encontre du chanteur, toujours présumé innocent, elle émet quelques réserves.
J'ai un peu peur que la justice ne fasse pas son travail parce que dans ce genre de cas, en général, il n'y a pas assez de preuves.
Patrick Bruel n'ira pas en détention provisoire. Contrairement à ce qu'avait requis le parquet de Nanterre, il restera libre sous contrôle judiciaire. Nel ne cache pas sa déception.
C'est un privilège. Je peux lui permettre de rester chez lui, peinard, alors que j'ai des accusations plus longues que le bras. Le temps que tous les procès soient terminés et que tout se passe correctement, bah, il devrait être en détention provisoire.
Claudia, militante de l'association féministe Nous Toutes, veut surtout retenir le message qu'envoie cette mise en examen.
Ça vient quand même montrer en tout cas que enfin les victimes vont potentiellement pouvoir être entendues, que leur témoignage et leur parole comptent. C'est également une victoire d'un point de vue féministe.
Depuis le début des accusations, Patrick Bruel conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Et notez que le chanteur a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté dans 4 autres affaires similaires. Deuxième jour de frappe américaine consécutif en Iran. Donald Trump accuse Téhéran d'avoir saboté récemment un accord de paix. Et l'Iran annonce de son côté que le détroit d'Ormuz est désormais bloqué, ce que dément l'armée américaine.
7h35 sur RMC, c'est le jour J.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et top départ du mondial de foot à vivre, vous le savez, en intégralité sur RMC, radio officielle de la compétition. Premier match, Mexique-Afrique du Sud, dès 21h ce soir, coup d'envoi à 4h du matin pour le match suivant, Corée du Sud-République tchèque. Il va falloir s'habituer hein, à ces horaires nocturnes et pour les supporters, c'est toute une organisation, Marion Gauthier.
En tribune, les règles des parents.
Le premier match, il me semble qu'il est aux alentours 20h-21h. Je pense que là, on peut pousser jusqu'aux alentours de 23h pour un match comme voilà, l'équipe de France, on peut y aller. C'est quand même un événement et il faut en profiter à fond. Là, mon fils a 8 ans, je pense que voilà, je veux qu'il s'en souvienne.
Sur le terrain, les attentes des enfants.
Vous avez regardé tout aussi, vous?
Ouais.
Mes parents, ils m'autorisent à regarder les matchs, que ça soit à 21h, 2h.
Amadou a 15 ans et de la détermination.
Eux-mêmes, ils sont fans de foot.
S'ils vous laissaient pas regarder?
Je vais regarder sur mon téléphone, en secret. Non, ils ont pas le choix, obligé. Là, on est prêt, physiquement, mentalement, tout.
Et voilà le tableau.
Le calendrier des rencontres sur l'écran de l'entraîneur. Il se lèvera pour la France et la Turquie, son pays d'origine.
Le premier match, c'est dimanche, donc c'est à 6h. Toi, c'est quoi ton premier match?
Moi, c'est 3h, Maroc. Moi, c'est une obligation.
Oh, ça va. C'est cool. Léger. Brésil, Maroc, minuit. Ouais, c'est ben, tu fais ton dîner, tu vas prendre un petit verre, tu rentres à la maison.
Tranquille.
Voilà. Et on va manger du football pendant un mois.
Une bouffée d'oxygène, dit-il. Le club veut organiser des diffusions des matchs pour réunir parents, enfants et riverains près du gazon.
Et pour tout vivre, il y a évidemment la radio digitale RMC consacrée au mondial. Elle ouvre dans une toute petite demi-heure.
Et puis le quintet, c'est à Paris-Longchamp aujourd'hui.
Oui, départ à 20h15. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, son favori, c'est le numéro 13, Rosarion. Son outsider, le 5, Bassanti. Le 13 et le 5.
C'était le journal de Victor Pochet. Il est 7h37. On part au 32-16. C'est Kevin qui nous appelle du Pas-de-Calais. Vous êtes à Calais. Bonjour Kevin.
Bonjour Pauline.
Comment ça va, Kevin? Vous êtes animateur jeunesse, vous allez la suivre, la Coupe du Monde?
Bien sûr, donc oui, animateur jeunesse, et oui, je suis la Coupe du Monde.
Vous allez la suivre, y compris si c'est au milieu de la nuit
C'est ce que je disais sur WhatsApp, là, parce que là, je commence le 4 juillet, les vacances, donc oui, je vais les suivre, mais si c'est à partir du 4 juillet, les matchs à minuit, 3h du matin, tout ça, on va un peu éviter quand même pour être en forme sur le terrain le lendemain matin, quoi.
C'est ça, parce que le problème, c'est qu'il faut quand même ensuite, effectivement, jouer les journées. Vous faites quoi, concrètement, Kevin?
C'est-à-dire, je fais comme je suis animateur jeunesse dans un centre de loisirs, donc pour des activités pour les enfants, tout ça. Je pense qu'on va même les enfants, pour eux, la Coupe du Monde, ça va être un moyen de s'exprimer et de parler aussi de football, tout ça.
Ça va être un thème, ça va être un des thèmes que vous allez suivre aussi avec les enfants.
Bah, on va en parler, mais nous, le thème principal là cet été, c'est les 7 merveilles de l'été, donc tout ce qui est forêt, jungle, tout ça, quoi. Donc, mais on peut en parler.
Moi,
aussi
je veux venir. Moi, je veux venir passer mes vacances avec vous, Kevin.
Oh, bah, si vous voulez, on vous invite. Hein.
Kevin, est-ce que vous estimez que la France effectivement peut y arriver cette année?
Ah, franchement, j'espère quand même de tout cœur que la France remporte la troisième étoile, mais ça va être compliqué. Après, je ne me cache pas, je vois aussi peut-être potentiellement l'Espagne championne du monde, mais en espérant vraiment la France.
Ouais, c'est l'autre grand favori, hein. C'est ce que nous disait Eric tout à l'heure. Kevin, on va la vivre ensemble, cette Coupe du Monde. Merci en tout cas d'avoir appelé, c'est un vent de fraîcheur aussi avec vous. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et cette question à la une, bien sûr. Peut-on encore avoir confiance en la justice de notre pays? 2 Français sur 3 ne font plus confiance à la justice. C'est le niveau le plus bas depuis 2019. Jérôme Fourquet sera avec nous dans un instant. Jérôme Fourquet, probablement celui qui connaît le mieux ce que pensent les Français. Sommes-nous au bord d'une forme de révolte, de frustration, de colère? La tentation aussi pour certains de se faire justice soi-même. Si l'on ne peut plus faire confiance en l'État, comment restaurer le lien entre population et justice. Les politiques ont-ils leur part de responsabilité? On va comprendre avec vous, Jérôme Fourquet, ce qu'il se joue en ce moment. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Les Français ont-ils encore confiance en la justice? Manifestation cette semaine devant les tribunaux un peu partout en France. Le choc, l'onde de choc après le fiasco et la mort de la petite Liana. Ces plaintes qui n'ont pas été suivies de fait. Ces tribunaux qui, semble-t-il, mettent tant de temps avant parfois de juger, mais même pas toujours. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du département opinion de l'IFOP. Vous sondez les Français régulièrement, vous analysez leur comportement. Leur confiance en l'État est-elle aujourd'hui menacée?
Alors écoutez, il y a un récent sondage qui n'a pas été réalisé par l'IFOP, mais qui a été réalisé pour BFM, qui indiquait il y a 24 heures que à peu près 2/3 des Français n'avaient pas confiance dans la justice. Alors on sait que la défiance vis-à-vis de cette institution est ancienne, mais elle a sans doute été réactivée par ce que nous venons d'apprendre au sujet du drame qui s'est passé dans le Gers.
Est-ce que ça veut dire que le pacte de confiance, en quelque sorte, notamment l'idée que c'est l'État qui rend la justice, que c'est l'État qui a le monopole de la force et de la justice, est-ce que ça, c'est en train de craquer?
Alors, on a déjà eu des signaux avant-coureurs sur d'autres affaires où des pères de famille avaient été tentés de se faire justice eux-mêmes parce qu'ils estimaient que la peine qui avait été infligée aux agresseurs de leurs enfants avait été...
L'enquête
n'allait pas assez vite. Et donc, il faut être très attentif et vigilant à ça. Ce qui est aussi très marquant, c'est la dignité et le silence qui régnait dans les très nombreux cortèges qui se sont organisés dimanche, c'est cette marche blanche de Florence, mais aussi partout en France, comme si elles exprimaient une colère sourde et froide. Et on voit que le débat politique aujourd'hui qui s'enflamme n'est sans doute pas à la hauteur du choc profond, de cette onde de choc qui se diffuse dans la population française.
Onde de choc, la question évidemment de la protection des enfants qui n'ont pas été protégés, de la mort de Liana qui aurait pu être évitée. Le mot a même été exprimé, reconnu par le ministre de l'Intérieur lui-même, qui dit elle n'aurait pas dû mourir. Et comme vous le disiez, effectivement, une sorte de révolte très digne, avec beaucoup de femmes, très peu d'hommes dans ces fameuses manifestations devant les tribunaux en réaction à l'affaire Liana. Ça vous a frappé aussi?
Oui, tout à fait. Encore une fois, c'est cette dignité, mais aussi le nombre de personnes. La petite ville de Florence, c'est 6000 habitants. La préfecture a estimé qu'il y avait 6500 participants. Ce n'était pas cantonné uniquement à cette ville. Partout en France, on a observé de tels rassemblements. Ce n'est hélas pas la première affaire de ce type, et tout se passe comme si nous prenions progressivement conscience de l'ampleur de ce phénomène, qui le phénomène de la pédophilie, de l'inceste, des violences sexistes et sexuelles, était en fait le dernier tabou de la société française. Et depuis l'affaire MeToo, depuis le fameux hashtag Balance ton porc qui a émergé sur les réseaux sociaux en France en 2017, cette chape de plomb s'est progressivement levée. Et c'est tant mieux, mais nous sommes totalement abasourdis par ce qui remonte désormais à la surface et par l'ampleur des cas qui sont remontés. Le directeur général de la Gendarmerie nationale indiquait récemment que 4 cas d'affaires touchant des mineurs étaient remontés au service de gendarmerie chaque heure en France. Donc c'est des dizaines et des dizaines de milliers de plaintes qui se sont accumulées et c'est un phénomène que les Français n'avaient pas mesuré dans son ampleur.
C'est considérable, c'est énorme. Lors d'une de ses auditions, Gérald Darmanin disait par exemple que certains de ses enquêteurs travaillent sur les détentions d'images pédopornographiques et qu'il les cartographie en quelque sorte. Et il disait, lorsque l'on regarde cette carte, on a le vertige, il y en a partout, dans toutes les rues, à tous les coins de rue. Il y a aussi désormais la tentation de rendre ces pédocriminels publics, avec ce qu'ont fait les États-Unis, par exemple, ou la Pologne. Je regardais l'un de leurs fichiers hier. Est-ce que c'est un tournant ? Est-ce qu'à un moment, l'idée de protéger ses enfants doit aller jusqu'à philosophiquement accepter l'idée que certains ne sont pas récupérables en quelque sorte et qu'ils sont une menace permanente pour les enfants.
Moi, je suis pas pédopsychiatre ou ni spécialiste.
C'est un clivage politique. Là,
alors c'est un clivage politique, mais il faut sans doute interroger les spécialistes. Le fait que ce clivage politique prenne corps aujourd'hui indique bien que jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment réfléchi, si je puis dire, en profondeur sur le sujet et que face à l'ampleur des cas qui sont remontés, aujourd'hui, on ne peut plus détourner le regard. Et donc, c'est souvent de mauvais conseils que de raisonner à chaud. L'émotion est, on le comprend, très vive. Mais hélas, d'autres affaires remonteront bientôt et sans doute à la surface. Et il va falloir que l'ensemble de la société française se regarde en face, accepte de voir ce qu'il faut voir. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on met le projecteur sur une corporation ou sur un secteur en particulier, ce sont des dizaines et des dizaines de cas qui sont révélés. Très récemment, c'était l'affaire du périscolaire dans la ville de Paris. Mais Paris n'était pas un cas isolé. On voit progressivement d'autres affaires remonter dans d'autres villes.
Et chaque fois,
villes.
c'est des cohortes, c'est un système.
Exactement. Et donc tout ça, en fait, c'est sédimenté depuis très longtemps dans l'affaire de Florence. On voit comment le présumé coupable a un frère qui lui-même a été poursuivi pour affaire de viol, et que le père de ces deux hommes est lui-même mis en cause dans des affaires similaires. Donc on voit comment ces affaires en fait se transmettent, le terme est horrible à employer, mais de génération en génération. Des estimations indiquent que pour ce qui est uniquement de l'inceste, et donc toutes les affaires pédocriminelles ne se résument pas à l'inceste, ce serait à peu près 10% de la population française qui aura été victime de l'inceste. Donc vous voyez qu'on parle en millions de personnes, et donc c'est un sujet qui n'a jamais vraiment été traité, et qu'il faut aujourd'hui regarder en face, à la fois du côté de la justice, mais aussi du côté de la société et nos responsables politiques. À cela s'ajoute, ou se télescope, l'état de déliquescence et de paupérisation de notre système judiciaire, qui est déjà sans cela fonctionnait comme il pouvait, et qui aujourd'hui est complètement embolisé par la multiplication de ces cas. Donc si vous voulez, ce court-circuit, c'est à la fois un nombre énorme de plaintes qui sont remontées à la surface, et parallèlement un système judiciaire qui est à bout de souffle et qui n'a certains ont parlé de clochardisation, etc., qui sans doute est dans des modes de fonctionnement qui sont aujourd'hui dépassés à l'heure du numérique et du digital. Tout le monde a en tête les 2 semaines nécessaires au transfert du dossier
de Toulouse à Auch.
Donc Alain Bauer disait qu'au 19e siècle, à cheval, la plainte aurait été plus vite acheminée.
C'est pas faux.
Mais tout à fait. Et donc c'est ce cocktail-là qui produit à la fois la sidération, mais aussi cette colère sourde et froide qu'on constate dans la population.
Merci beaucoup, Jérôme Fourquet, d'être venu l'analyser pour nous, directeur du département Opinion à l'IFOP. Vous avez publié récemment Métamorphose française, une véritable analyse précisément de tout ce qui est à l'œuvre dans la société française. Et puis, bien sûr, un classique, mais que je recommande toujours, L'Archipel français, aux éditions du Seuil. Il est 7h51. Cécile Duflo est rentrée dans ce studio, La Voix de Gauche. Bonjour, Cécile.
Bonjour, Apolline.
On le dit depuis ce matin, début ce soir de la Coupe du Monde 2026, une Coupe du Monde qui sera politique d'après vous.
Oui, on a envie souvent de dire que le sport n'est pas politique ou que c'est une parenthèse, c'est le contraire. C'est très très politique, on l'a vu très récemment avec l'expulsion de l'arbitre somalien notamment.
Et vous nous le dites dans un instant, il est 7h51 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, La Voix de Gauche, mais d'abord le bonus, Mathieu.
Oui, alors une bonne nouvelle, hein, une nouvelle chanson pour la Coupe du Monde. Et c'est le DJ français le plus écouté au monde, David Guetta, qui signe DNA et rassemble une rappeuse américaine, une chanteuse K-pop et le ténor Andrea Bocelli. David Guetta qui rejoint la longue liste des candidats au tube du mondial comme le titre Goals chanté par une membre du groupe Blackpink, Anita et une star brésilienne et le Nigérian Rema. Ou alors sinon vous avez évidemment entendu Shakira qui signe sa troisième chanson de Coupe du Monde après 2010 et 2014. Alors David Guetta lui signe un nouveau titre que vous allez entendre tout le mondial, notamment pendant la cérémonie d'ouverture ce soir avec Andrea Bocelli en live. Ça fait au moins un Italien à la Coupe du Monde. DNA More Than a Game, le foot comme un ADN, c'est plus qu'un jeu titre qui sort au moment où David Guetta lance sa résidence de 3 soirs au Stade de France. It's more than just a game, it's our
DNA. RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Bonjour Cécile Duflo, c'est jeudi, c'est La Voix de Gauche. Cécile Duflo, ancienne ministre bien sûr, débute ce soir à 21h la Coupe du Monde 2026. On va suivre ça bien sûr sur RMC. Un début tourmenté entre cet arbitre somalien de la FIFA qui a été refoulé du territoire américain, les conditions d'accueil de l'équipe nationale iranienne ou encore le refus d'accueillir les supporters de certains pays. Cécile, vous vouliez rappeler qu'accueillir une Coupe du Monde, c'est forcément politique.
Oui, c'est évidemment politique parce que le sport l'est toujours. On a plein d'histoires, mais encore davantage dans des grandes compétitions internationales avec des équipes nationales comme les Jeux Olympiques ou comme la Coupe du Monde. C'est vraiment les deux grands moments. Et on est dans une situation actuelle où il y a une très grande tension internationale, une très grande tension avec les États-Unis, une très grande tension aussi au sein des États-Unis. Donc il y a un gros paradoxe à accueillir une compétition internationale, surtout que Trump a tenté de se l'approprier alors qu'elle a lieu dans 3 pays et que ça devrait justement être un moment un peu suspendu où on pense différemment les relations entre les pays.
Est-ce qu'on y voit la politique, la marque de fabrique de Donald Trump là ?
Mais oui, parce qu'un mondial, c'est pas seulement des matchs. C'est aussi se mettre au centre du monde pendant une période. Et il a bien compris Donald Trump parce qu'il a décidé de se l'approprier. Et normalement, c'est bien là le problème, c'est que c'est le contraire de la vision de Donald Trump. C'est un moment où chacun vient avec ses spécificités, ses originalités, ses valeurs. Et donc, on est dans une contradiction totale avec le discours et l'attitude de Donald Trump. Et donc, on voit bien que si cette difficulté se ressent à l'occasion de la Coupe du Monde, elle se ressent depuis un moment. Hein. Les États-Unis sont en chute et de plus en plus importante de visiteurs étrangers et notamment de tourisme, puisque la baisse de la fréquentation, c'est 5,5% en 2025. Les gens n'ont plus envie d'aller aux États-Unis parce que l'ouverture, c'est pas juste un décor, c'est pas un slogan touristique. L'image qu'on renvoie de son propre pays est décisive sur l'attractivité. Et donc toutes les histoires que l'on a vues autour de la police de l'immigration et d'ailleurs dont on voit les conséquences, y compris sur des participants à la Coupe du Monde, sur ce qui a été fait avec les touristes, ça freine le souhait de voyager aux États-Unis et ça change l'ambiance.
Est-ce que la Coupe du Monde, ça devrait être un moment apolitique ?
Eh ben, en fait, ce qui est très particulier, c'est que c'est un moment où il y a des équipes qui portent les couleurs de leur pays, les hymnes sont joués avant chaque match, donc c'est impossible de se détacher de cette dimension nationale, multinationale de la présence des équipes. Et il y a quand même un truc un peu paradoxal, c'est comme une suspension puisqu'il va y avoir l'équipe d'Iran, enfin on sait ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran, il va y avoir l'équipe d'Iran qui viendra jouer sur le sol des États-Unis mais qui rentrera au Mexique dès que les matchs seront terminés.
Donc le mondial peut faire bouger les choses.
Je pense qu'il fait bouger les choses et dans un certain nombre de cas, ça a été le cas parce que la politique, elle est de toute façon dans le stade. Et la réussite d'une Coupe du Monde, c'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi la façon de tricoter les deux sujets, la politique intérieure, la politique extérieure et le sport. Et tout le monde se souvient d'ailleurs de l'effet considérable qu'ont fait les JO sur la France et sur l'image de la France à l'étranger. Et d'ailleurs, la volonté des Français, elle a donner l'idée de poursuivre un peu cet état d'esprit. Et c'est comme ça qu'il y a une grosse mobilisation pour garder la Vasque. Elle revient dans 10 jours d'ailleurs, la Vasque. Et moi aussi, c'est un grand souvenir, notamment pour ceux qui ont vécu des moments où la France était unie grâce à des grandes compétitions internationales.
Elle revient donc. Merci Cécile Duflo, ancienne ministre Voix de Gauche sur RMC. Demain, place au débat. Voix de Gauche et Voix de Droite. Il est 7h57. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.